CFM, le mag, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Bonjour à tous, le rendez-vous politique de CFM avec Kader Youp. Bonjour Kader.
Bonjour Rémi,
comment
bonjour
ça
à
va
tous. Ça va très bien.
Ton invité aujourd'hui, c'est Alain Hiche, président de la FDSEA du Tarn-et-Garonne. Bonjour Alain Hiche.
Bonjour.
Bonjour Alain Hiche.
Bonjour.
Et bienvenue sur CFM Radio. Une question, première question qui me vient comme ça à l'esprit. Pourquoi avez-vous voulu être agriculteur et comment est-ce compatible avec vos fonctions de président de la FDSEA 82?
Et agriculteur, je pense que c'est quelque chose qu'on ne choisit pas comme ça à la va-vite. C'est vraiment depuis ma naissance où c'est que ça m'a toujours plu, que le monde agricole m'a toujours plu.
Alors, hier ou avant-hier, c'était la journée de la femme rurale, la femme agricultrice. Est-ce que ici, Tarn-et-Garonne, vous l'avez fêtée? Est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier pour cette journée particulière?
Alors, de particulier, non. Par contre, c'est vrai qu'on met rarement en avant les agricultrices, alors qu'elles sont un élément indispensable, justement, dans le monde agricole, parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Et aujourd'hui, quand même, de plus en plus, elles ont un statut, chose qu'il faut qu'elles aient impérativement, parce que on voit aujourd'hui des personnes qui ont la retraite, où c'est que les épouses d'agriculteurs n'avaient pas de statut à l'époque et avaient des retraites vraiment dérisoires.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'agricultrices dans le Tarn-et-Garonne?
Bien sûr qu'il y a des agricultrices. Il y en a, je dirais qu'il y a beaucoup de conjointes qui sont exploitantes aujourd'hui, qui sont agricultrices. Oui.
Est-ce que vous faites en sorte de faire progresser justement ces droits des femmes agricultrices?
Oui, on essaie de les faire avancer. Et nous, justement, à la FDSEA, on a une section agricultrice avec Madame Odile Desjean, qui est même représentante au niveau national.
Souvent dans les exploitations, c'est la femme qui cherche du travail pour compenser ou pour compléter un revenu. Est-ce que ça se voit particulièrement ici?
Alors aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus, parce que on voit bien que les conditions en agriculture sont de plus en plus difficiles, et donc on a besoin de chercher un revenu extérieur pour l'exploitation.
Les femmes ont-elles un rôle à la FDSEA?
Elles ont pleinement un rôle, et ce que je...
On les voit pas beaucoup, en tout cas. Est-ce que vous êtes pour la parité?
Parce qu'elles travaillent dans l'ombre, justement, mais elles sont très efficaces, et d'ailleurs, on fait appel souvent à elles quand on organise, justement, des rencontres ou des journées comme à Bienvenue à la campagne, où c'est qu'elles sont vraiment indispensables.
Vous êtes pour la parité, justement, aussi dans les syndicats, comme ça se fait maintenant dans les partis politiques, avec plus ou moins de succès, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Je suis pour la parité. Le gros problème, c'est que on n'arrive pas justement à avoir des dames qui veuillent s'impliquer, comme des hommes, je dirais. Alors pourquoi? Est-ce qu'elles n'osent pas? Mais en tout cas, la porte est grande ouverte pour elles.
Bon, le message est lancé. Voilà. Vous avez mis en place des actions dur ici à Montauban, mais partout ailleurs, en Midi-Pyrénées, dans toute la France, pour protester notamment contre cette directive nitrate dont on entend beaucoup parler et dont on aimerait bien que vous nous disiez ce qu'elle recouvre exactement.
Alors la directive nitrate, c'est un mot que les gens peut-être ne connaissent pas bien. Nous, dans le monde agricole, ça fait 20 ans qu'on parle de directive nitrate. On est au 5e programme, parce qu'il faut savoir que tous les 4 ans, donc elles sont remises en question. Aujourd'hui, c'est une directive européenne, quand même, qui porte sur l'amélioration de la qualité des eaux. Il faut savoir qu'en France, on a des secteurs où c'est qu'il y avait des problèmes quand même de qualité des eaux, notamment dans le bassin Seine-Normandie. Le bassin Adour-Garonne, quand même, est différent, et c'est là où c'est qu'on voit la diversité de la France, avec tous ces terroirs et justement ces sols qui sont différents. Donc on ne peut pas transposer quand même en France une directive d'un bassin à un autre. La problématique aujourd'hui qu'on a sur la directive nitrate, c'est que on veut nous imposer quelque chose qu'on ne peut pas appliquer. Alors, quelques exemples tout simples, et où c'est que tout le monde peut comprendre, c'est que on nous demande justement d'agrandir nos capacités de stockage parce qu'on veut nous interdire d'épandre pendant certaines périodes. Il faut savoir que si on ne peut pas épandre pendant 6 mois nos fumiers ou nos lisiers, bien sûr, quand on va les épandre et les périodes proposées sont le printemps, au moment où c'est quand même une pluviométrie qui est élevée, et donc on va concentrer ces épandages, et là, j'ai bien peur qu'on atteigne la problématique de la ressource en eau, parce qu'on risque d'avoir plus de lessivage.
Vous êtes conscient quand même que que ça pose problème, qu'il y a la pollution des sols et qu'on ne peut pas continuer comme ça. L'association France Nature Environnement disait il y a quelques jours que vous ne pouviez pas, les agriculteurs ne pouvaient pas ignorer plus longtemps ces règles, ces normes.
Alors, ces normes...
La France, d'ailleurs, a été condamnée par l'Europe.
Tout à fait. La France a été condamnée par l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'elle a dit on veut faire mieux que ce que l'on nous demande. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le seuil que demande l'Europe, c'est 50 mg. On a les Pays-Bas qui ont eu des dérogations pour monter jusqu'à 70 mg. Et nous, en France, on nous demande d'abaisser le seuil à 18 mg. 18 mg, et je pense que là, tout le monde, du moins dans le bassin, est d'accord là-dessus, pour dire que sans aucune activité agricole dans un bois, rien que la dégradation naturelle des feuilles, on se situe entre 15 et 20 mg.
Et pourtant, il faut satisfaire aux directives de Bruxelles. Les amendes, il faut les payer. Vous savez que tout le monde doit mettre la main à la pâte et que les budgets sont contraints. Est-ce que ça, finalement, c'est un argument que vous entendez ?
C'est un argument qu'on entend, mais je pense qu'il faut que la France aussi arrête de mettre des contraintes, des boulets à chaque pied des agriculteurs, parce qu'on nous demande d'être compétitif avec nos pays voisins. Seulement, on nous met aujourd'hui 15 kilos de plomb à chaque pied, chose que Bruxelles ne demande pas à la France. Voilà.
Y a-t-il un rapport avec ces zones vulnérables aussi qui sont l'objet de toutes les attentions de la part des agriculteurs ? Ces zones vulnérables qui, je le rappelle, vous allez nous les expliquer.
Alors, ce qu'il faut savoir sur les zones vulnérables, c'est que en 2012, donc sur les critères que demandait Bruxelles, notre département, et grâce aux efforts qu'avaient fait les agriculteurs, parce que on a amélioré notre fertilisation, parce qu'on a aujourd'hui du matériel technique quand même qui permet d'améliorer tout cela, notre département avait sorti 29 communes de la zone vulnérable parce qu'elles rentraient dans les critères demandés par l'Europe.
C'était un bon résultat.
C'était un bon résultat. Qu'il faut continuer, bien sûr, mais ça, les agriculteurs s'y attachent tous les jours à améliorer ce résultat.
Donc, pourquoi cette colère ?
Cette colère, parce qu'aujourd'hui, la France dit on ne va pas suivre l'Europe sur le seuil des 50 mg, on va faire beaucoup mieux et on va descendre à 18 mg.
Pour vous, à la FDSEA, le seuil, le bon seuil, ce serait quoi ?
Mais je pense que le seuil demandé par l'Europe de 50 mg est un bon seuil. Aujourd'hui, quand vous mangez, je vais prendre un exemple, de la betterave, vous mangez 180 mg de nitrate.
Aujourd'hui, les agriculteurs ont les moyens de stocker le lisier pour arriver à ces 50 mg où, là aussi, ça pose des problèmes d'investissement.
Alors, les agriculteurs aujourd'hui n'ont pas les moyens de stocker 6 mois dans l'année. L'investissement aujourd'hui, où c'est que tout le monde s'entend, on correspond à 1 000 € par UGB, par tête de bétail, voilà. Ce qui correspond entre 40 et 50 000 euros par exploitation quand même d'investissement. Et je pense pas en ayant une efficacité au bout, parce que comme je le répète, c'est que concentrer l'épandage sur une période réduite, je pense qu'on va aggraver justement la qualité de l'eau.
Alain, j'ai relevé il y a quelque temps, justement après une des manifestations que vous aviez conduites ici à Montauban, un édito assez cinglant que vous aviez adressé, une espèce de lettre ouverte à Madame Valérie Rabault, députée de Tarn-et-Garonne, où vous fustigiez son communiqué de presse à elle, qui vous demandait de ne pas procéder à des dégradations sur l'espace public. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez entendu et que vous êtes prêt finalement à occasionner moins de dégâts?
Alors, je l'ai entendu. Le problème, c'est que je pense qu'on n'a pas la même notion de dégradation. Voilà.
Vous qui l'avez écrit. Hein.
Oui. Mais ce qu'on nous fustigeait parce qu'on avait dégradé des choses, je veux quand même remettre les choses à leur place. C'est que nous n'avons rien cassé. C'est vrai que nous avons épandu un peu de fumier et du lisier, oui. Mais après, il n'y a pas eu de détérioration matérielle, je dirais, comme on peut le voir des fois dans d'autres manifestations.
Il y a 8 militants de la coordination rurale qui sont en garde à vue depuis hier, qui ont été arrêtés du côté de Sainte-Livrade sur Lot. Vous êtes au courant de...
Oui, je l'ai vu sur les journaux aussi ce matin. Moi, je trouve un peu exagéré, peut-être, une garde à vue pour des choses qui, a priori...
Il y a 220 000 euros, je ne sais plus combien, de dégradation. Hein, 217 000 euros de dégradation suite à une manifestation, justement.
Oui. Je ne peux, en toute honnêteté, est-ce qu'ils sont vraiment justifiés ces 220 000 euros? Je ne sais pas. Mmh. Nous, on n'y était pas à tenir et donc je ne sais pas vraiment quelles sont les conséquences.
Ce qu'on dit souvent, ce que le citoyen dit souvent, c'est les agriculteurs débarquent, généralement, ils arrivent, ils cassent tout et on leur dit jamais rien.
Non,
serait en train de changer, visiblement.
Je pense pas qu'on leur dise jamais rien, parce que ce soit moi ou même mon prédécesseur a eu aussi l'occasion d'aller des fois au commissariat pour répondre de plaintes ou autre.
Est-ce que depuis vous êtes réconcilié avec les décideurs qui vous ont quelque peu taclé ces exactions?
Non, mais on sait très bien faire la part des choses avec les décideurs. Autant on a des points sur lesquels on ne peut pas accepter, parce que de toute manière, c'est ni plus ni moins la mort de l'agriculture. Et surtout, comme j'ai dit, il faut qu'on nous le dise si on veut faire disparaître l'élevage dans notre département. Parce que cette directive nitrate, elle est inapplicable à l'élevage, et c'est ni plus ni moins la disparition des éleveurs.
Non, en tout cas, le Premier ministre a annoncé une refonte complète de ce problème-là. Vous l'attendez ?
On l'attend, oui.
Vous êtes bien sûr au courant qu'il y a des gens qui font la grève de la faim à Sivens, sur le barrage de Sivens.
Oui.
On écoute un tout petit peu de pub et puis on en parle après si vous voulez bien.
D'accord.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Caussade en Tarn-et-Garonne, samedi 18 et dimanche 19 octobre, Tractomania, la bourse d'échange internationale. Espace Bonaïs, bourse internationale de vieux tracteurs, pièces détachées, matériel agricole ancien, miniature, expo complète de tracteurs Lanz, cours Didier Ray, les vieux métiers, collection de plusieurs dizaines de moteurs fixes tournants, locomobiles, véhicules anciens, et pour le 70e anniversaire du débarquement, un camp militaire avec véhicules militaires de collection, un char Sherman M4A2 entre autres, restauration et buvette. Tractomania, un événement gratuit à Caussade, les 18 et 19 octobre.
Le Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées, premier financeur de l'habitat sur son territoire, avec 40 projets réalisés par jour, est le partenaire banque et assurance du Salon de l'Habitat de Montauban du 24 au 27 octobre à Eurythmie. Vous avez un projet d'acquisition ou de rénovation? Rendez-vous dès le 24 octobre sur notre stand ou sur onajamaisvuça.com, notre site de vente privé. Salon de l'Habitat de Montauban du 24 au 27 octobre à Eurythmie. Avec le Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées, le spécialiste de l'habitat.
Martifleur, votre producteur de fleurs à Bioule, à votre service du lundi 8h au samedi 19h. Les plantes diverses sont là, chez Martifleur. Venez faire votre choix. Pensez, cyclamen, bruyère et vivace vous attendent. Il y en a pour tous les goûts. Pour vous aider dans les plantations d'hiver, le meilleur, c'est Martifleur, votre producteur de fleurs entre Réalville et Bioule. Martifleur, des fleurs pour tous. Itinéraire fléché. Renseignements sur marty-fleur.fr.
Rugby Pro D2, samedi 18. Match de gala à Sapiac. Montauban accueille le Biarritz Olympique. Il va falloir élever le jeu pour l'emporter. Tous à Sapiac pour soutenir les verts et noirs. Coup d'envoi 18h30 pour une rencontre au sommet face au Biarritz Olympique. Samedi 18, 18h30, le rendez-vous à ne pas manquer.
Gagnez vos places sur CFM Radio en appelant le 05 63 930 020 le soir dans l'émission À qui le tour.
CFM à Castelsarrasin. Castelsarrasin. 90.7. 90.7.
Suite du rendez-vous politique avec Kader Youb. L'invité aujourd'hui, c'est Alain Hiche, président de la FDSEA du Tarn-et-Garonne.
On part sur Sivens.
Ouais, on part sur Sivens. Oui. Petit rappel des faits, hein. Il y a des opposants qui se battent jour et nuit sur place depuis maintenant de nombreux mois contre l'implantation d'un barrage à Sivens sur la zone humide de Sivens. Il y a évidemment les agriculteurs du Tarn-et-Garonne qui sont concernés par ce barrage. Qu'est-ce que vous en pensez à la FDSEA ?
Alors tout à fait, nous les agriculteurs Tarn-et-Garonne sommes concernés, notamment dans la vallée du Tescou. Nous on est favorable à ce barrage pour deux points. Tout d'abord, c'est pour avoir, je dirais, moins de problématiques au niveau du poisson, tout simplement, parce qu'on a un cours d'eau qui s'assèche en été. Et donc, pour la biodiversité, je pense qu'on a besoin de la réalimentation. Et ce projet a été fait en priorité.
Pour les poissons, j'ai cru que vous alliez me dire de suite, parce qu'on en a besoin pour le maïs ou le tournesol.
Non, et les opposants, ils s'opposent justement pour la biodiversité.
Ils s'opposent à la biodiversité.
Ils sont pour la biodiversité.
Voilà, c'est là où c'est que justement on n'arrive pas à se comprendre, parce que nous aussi on est pour la biodiversité. Et en premier lieu, justement, pour le soutien des tillages dans nos cours d'eau. Après, c'est vrai qu'il y a une autre partie, l'autre moitié du barrage qui est pour l'irrigation, bien sûr pour notre département, mais aussi pour le département du Tarn, pour conforter aussi des petites exploitations, et ça je tiens à le souligner, c'est que la moyenne de nos exploitations quand même est entre 40 et 50 hectares, donc j'estime que c'est quand même de petites exploitations.
Ce que disent les opposants, c'est que c'est pour les maïsiculteurs, pour des cultures qui sont gourmandes en eau, et qu'il faudrait peut-être voir à changer d'agriculture plutôt que d'essayer de répondre à une agriculture intensive qui pour eux va dans le mur.
Alors, je ne sais pas si on peut parler d'agriculture intensive lorsqu'on a des exploitations de 50 hectares.
Oui, mais en fait, ce qu'ils disent, c'est que c'est pour préparer les grosses exploitations.
On peut toujours dire, mais ce qui a fait la force de notre département, justement, c'est l'irrigation. Parce que à l'époque, il y a 40 ans de ça, on a créé des réserves, justement, et on a pu maintenir des petites exploitations, et notamment à l'arboriculture, grâce à l'irrigation.
Oui, mais justement, les lacs collinaires qui ont été créés depuis ne sont pas suffisants.
Non, ils sont pas suffisants parce que aussi, enfin là on est sur de la réalimentation, je dirais, donc de rivières, donc c'est hors lac collinaire quand même.
D'accord. Alain Hich, une question qui n'a rien à voir sur finalement ce qui pourrait illustrer le fameux adage, le proverbe, le monde est petit suite au conflit russo-ukrainien. Il y a cet embargo russe depuis le 7 août dernier et chose qu'on ne savait pas, il a des implications et des conséquences pour les agriculteurs tarn-et-garonnais. Pouvez-vous nous l'expliquer ?
Bien sûr, alors cet embargo russe a des complications, et notamment pour Tarn-et-Garonne, parce qu'on est le premier producteur quand même de pommes en France, c'est le Tarn-et-Garonne. Il faut savoir aussi que les producteurs de pommes, ça représente quand même 20 000 emplois. C'est un peu plus qu'Airbus à Toulouse. Je pense qu'on ne le dit pas assez souvent, quand même, mais c'est porteur...
Mais vous êtes en
Tarn-et-Garonne.
En Tarn-et-Garonne, oui.
Le 20 000 emplois.
Le Tarn-et-Garonne, quand même, représente énormément d'emplois par l'arboriculture.
L'Europe si décriée par les agriculteurs, elle vous verse finalement, elle verse aux agriculteurs qui subissent les contre-coups de cet embargo, elle verse des aides.
Oui, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, le monde agricole travaille à perte, et notamment dans l'arboriculture, aujourd'hui, on le voit, quand les arboriculteurs vont vendre leurs pommes autour de 20 centimes le kilo, on se demande où passent les marges après, derrière, parce que quand le consommateur les achète des fois à 2 euros le kilo en grande surface.
Donc où passent les marges ?
Donc, aujourd'hui...
Oui, elles passent les marges.
Où passent les marges ?
Mais les marges, il faut regarder après entre le producteur, lui, il vend à ses coopératives, et puis après la grande distribution, qui je pense...
Alors c'est la coopérative ou c'est la grande distribution ?
Il faudrait rentrer dans les chiffres exactement, ouais. Mais je pense que la grande distribution a une grosse part dedans.
Alors, depuis des années, justement, on oppose la grande distribution aux agriculteurs, avec les consommateurs au milieu. Est-ce que c'est un conflit larvé, ou est-ce que la hache de guerre est enterrée, puisque je crois savoir que vous avez des accords qui seraient en train de se nouer ou de se conclure avec les grandes enseignes de Montauban.
Alors, l'hache de guerre pourra s'enterrer rien que quand on prendra en compte le coût de production des agriculteurs. Je pense qu'il faut repartir sur des bases qui sont simples, c'est que le monde agricole a un coût de production et il ne peut pas vendre en dessous son coût de production. Voilà. Aujourd'hui, on a des discussions, c'est vrai, avec de grandes enseignes sur Montauban et même sur Midi-Pyrénées, qui serait prête à entendre ce message et peut-être mettre en place quelque chose à partir du coût de production.
Ce sera l'union sacrée et les consommateurs finalement qui seront obligés de payer quelque chose qui aura été conclu sur le coin d'une table entre les agriculteurs, les grandes enseignes. Parce que on s'imagine pas que la grande distribution a finalement des objectifs philanthropiques comme ça du jour au lendemain.
Ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent et malheureusement, quand on parle de coût de production, pour qu'un agriculteur il puisse vivre, ça se joue souvent à 4-5 centimes d'euros. Donc je pense que 4 ou 5 centimes d'euros, on peut les gagner sans impacter le consommateur.
Mais qu'est-ce qui manque ? On aurait pu le faire avant. Pourquoi aujourd'hui ça pourrait être possible ? Qu'est-ce qui manque pour que ces 4 ou 5 centimes ils vous reviennent ?
Parce que, alors je vais être peut-être un peu dur, mais la grande distribution aussi veut racheter une image et veut se rapprocher peut-être des producteurs, donc c'est aussi le rôle des producteurs d'aller expliquer aux consommateurs comment ils travaillent, peut-être, parce qu'on a, je dirais, malheureusement, c'est ce qu'on a laissé, on n'a jamais su s'impliquer, justement, dans la diffusion, je dirais, du progrès qu'avait fait le monde agricole, et notamment en termes d'environnement.
Alors, à Montauban, quand c'est que concrètement, on verra les suites de cet accord ?
Alors j'espère très fortement qu'on puisse avoir, cet accord dès le printemps pour les fruits de printemps.
Il y a pas du tout ce prix-là, c'est pas parce qu'il y aurait une surproduction, parce que comme ce qui est rare est cher, mais s'il y avait moins de pommes, bah on les vendrait plus cher peut-être, non? C'est pas parce qu'il y en a trop que finalement elles ont ce prix-là?
Non, c'est pas forcément parce qu'il y en a trop.
Non.
Là-dessus non, on le voit dans toutes les productions d'ailleurs, hein, voilà.
Alors la loi d'avenir, hein, justement, qui va peut-être régler tous ces problèmes. Vous allez nous le dire. Une loi d'avenir pour l'agriculture, pour la pêche et pour l'alimentation a été votée et publiée au Journal officiel avant-hier. Hein, c'est tout récent. Quel accueil fait la FDSEA à ce texte?
Je dirais qu'on est plutôt sceptique parce qu'on ne voit pas vraiment une volonté d'aboutir à quelque chose et avec un résultat surtout.
Il y a trop d'agroécologie, trop d'écologie, pas assez de compétitivité à votre avis?
Je pense qu'il y a surtout pas assez de compétitivité. L'agroécologie, c'est quelque chose qui ne nous gêne pas du tout.
Quoique?
Non, pas quoique, parce que nous sommes habitués quand même à... Je dirais tout simplement, prenez l'avion de temps en temps et regardez quand même les paysages français comment il est. Je pense qu'il est bien entretenu par le monde agricole et que nous-mêmes, parce que c'est notre quand même outil de travail, et on ne veut pas dégrader quand même ce paysage-là.
Alors il y a une nouveauté, la création des groupements d'intérêt économique et environnemental.
Oui.
Leur rôle est de conforter la transition de l'agriculture vers des systèmes agro-écologiques. Est-ce que ici, en Tarn-et-Garonne, il y aura ces groupements et est-ce que la FDSEA aura son mot à dire pour leur constitution?
Bien sûr qu'il y en aura même en Tarn-et-Garonne. Je tiendrai simplement à souligner qu'il faudrait que ce soit fait en bonne intelligence et que là-dessus, il y a des organismes qui sont... c'est la Chambre des cultures. Et je pense que s'ils étaient pilotés par la Chambre des cultures... on aurait des résultats qui seraient beaucoup plus probants plutôt que de les laisser à des associations qui, des fois, malheureusement...
Donc, vous souhaitez-vous que la Chambre d'agriculture en prenne la...
Tout à fait.
Le pilotage?
Tout à fait, oui. Parce qu'on a des techniciens, justement, à la Chambre d'agriculture compétents là-dedans.
Ouais. Et vous allez pouvoir faire entendre raison? Est-ce que c'est en bonne voie?
En bonne voie, je dirais que non, parce que l'année dernière, les premiers dossiers, j'ai eu 2 œufs, donc... il y en a très peu qui ont été attribués aux chambres d'agriculture.
La modification aussi de la gouvernance au sein des interprofessions, est-ce que ça c'est un point qui vous titille, pour lequel vous n'êtes pas tout à fait d'accord?
Oui, enfin, disons qu'il faudrait changer aussi la base de l'interprofession, parce qu'il faut savoir que pour trouver un accord d'interprofession, c'est à l'unanimité. Donc tant qu'on ne changera pas ces règles-là, plus on va rentrer...
Mais c'est plus de démocratie quand même.
C'est plus de démocratie, mais c'est aussi... Moins
de pouvoir à la FDSEA.
Pas moins de pouvoir à la FDSEA, mais moins de chances de trouver un accord à l'unanimité.
Et moins de normes aussi, c'est ce que vous vouliez.
Moins de normes, bien sûr.
Il y a trop de normes?
Être aux normes. Nous, ce qu'on demande tout simplement, c'est d'être aux normes européennes. Voilà.
Mais il y a trop de normes en ce moment? On a le sentiment quand même que votre discours, il se rapproche un petit peu de, en tout cas pour le FNSEA, hein, c'est un syndicat national, un petit peu du MEDEF, et c'est aussi les mêmes revendications, hein, moins de normes, laissez-nous faire, laissez-nous travailler, on veut être compétitif.
Mais tout à fait, Tanière, nous ce qu'on demande c'est être compétitif, il faut savoir que quand même l'agriculture dégage chaque année entre 10 et 15 milliards d'excédents bruts, voilà. Et que si aujourd'hui l'agriculture pendant 20 ans n'avait pas déjà dégagé cet excédent, eh bien peut-être la France serait encore plus mal que ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que la France a la chance d'avoir une agriculture qui sait travailler, qui sait produire, qui sait aussi prendre soin de son environnement. On lui demande qu'une chose, c'est de se mettre au niveau des normes à la hauteur des autres pays européens, ou du moins que les autres pays européens se mettent à nos normes, nous.
Vous auriez un conseil à donner à des jeunes qui nous écoutent ici à Montauban, en Tarn-et-Garonne, dans d'autres départements, qui souhaitent s'installer? Est-ce que vous auriez des conseils? Surtout ne faites pas ça, ou au contraire, rejoignez-nous.
Non, je dirais rejoignez-nous parce que on aura besoin demain d'agriculteurs, tanières, pour nourrir tout le monde, pour préserver aussi cette agriculture traditionnelle un peu. Et je pense qu'il faut surtout promouvoir nos produits sur le département et sur la Midi-Pyrénées.
Il y a du chemin à faire.
Il y a énormément de chemin à faire.
Quelle est la position de la FDSEA sur les cultures transgéniques?
Alors nous, tout simplement, la position de la FDSEA, on est pour la culture transgénique, ou du moins pour la recherche. Voilà. Je pense qu'il est dommage à un pays d'arrêter la recherche sur quelque chose qui se développe dans notre pays. Alors, si on n'est pas prêt à cultiver parce qu'il nous manque encore peut-être certains points, mais surtout continuons la recherche.
De nombreux agriculteurs ont l'impression que leur métier est mal compris, trop de pollution, justement, avec, on en a parlé avec les nitrates, etc., ces conflits larvés entre les écologistes et les agriculteurs. Que faudrait-il faire pour que, justement, l'opinion publique se réapproprie? Finalement, vous avez un rôle à jouer, vous, les agriculteurs, vous avez un rôle social.
Je pense qu'on communique pas assez, déjà, par rapport à tout ce que fait le monde agricole, justement, à tous les efforts qu'a fait le monde agricole, parce que, en termes d'engrais, en termes de traitement phytosanitaire, en termes de beaucoup de choses.
Vous avez été obligé de vous y mettre au traitement phytosanitaire un peu propre, parce que aujourd'hui, les scandales de personnes qui sont atteintes de maladies neurologiques dans votre monde à vous, dans le monde agricole.
Parce que les premières victimes sont les agriculteurs.
Les premières victimes, bien sûr, sont les agriculteurs, mais il faut savoir que les gens qui traitent, c'est comme quelqu'un qui est malade. S'il ne se soigne pas, eh bien, la plante, elle aussi, va disparaître.
Une question politique, dans quelques mois, moins de 6 mois, les cantonales, est-ce que les agriculteurs auront leur mot à dire? Est-ce que vous, c'est pas trop l'esprit, et c'est pas trop en tout cas la finalité d'un syndicat, mais est-ce que vous souhaitez vous investir dans cette campagne?
Non, on ne s'investira pas dans cette campagne, parce que je pense, déjà notre syndicat est apolitique, on a des personnes de tous bords politiques. C'est pas l'intérêt de rentrer dans une campagne politique.
La frontière est proche entre ici, a fortiori dans le Tarn-et-Garonne, un département très agricole. La frontière est très 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 fine.
Oui, tout à fait, mais
il doit y avoir beaucoup d'élus quand même au sein de la FDSEA. D'agriculteurs élus de leur commune,
canton. Oui, bien sûr qu'on a des élus agriculteurs dans les communes, surtout notamment. Je déplore justement qu'on n'en ait pas peut-être au niveau des cantonales.
Il reste une minute pour une dernière question.
Une question sur le budget 2015 qui est actuellement en discussion au Parlement avec des annonces et des choses qui vont certainement être difficilement entendu par le monde agricole, possibilité que vous aviez d'exonérer les saisonniers agricoles très très vite.
Voilà, tout simple. C'est un exemple aussi simple. Quand on voit que le prix d'un saisonnier en Espagne est de l'ordre de 8 euros, charge comprise, nous ici on est à 12. Donc si on nous enlève en plus les exonérations que l'on avait, ça nous fait un boulet de plus pour nos exploitations.
Eh bien, on verra ça dans 2 mois. Merci en tout cas d'être venu.
Merci de m'avoir invité.
Merci Alain Hiche, président de la FDSEA du Tarn-et-Garonne, d'avoir répondu aux questions de Kader Youb dans ce rendez-vous politique qui sera rediffusé demain à midi. On se retrouve dans 15 jours.
Avec Monsieur Henriot, maire de Mansac.
Oui.
CFM.